Trainville PM. La voix est libre. Voici Luc Lavoie.
Alors Luc, ce qu'on entendait, ben, c'était la clameur de la foule hier lors des célébrations justement de la victoire des Raptors de Toronto. Puis ça a mal tourné.
Ça dépend. Si on prend des comparaisons, la dernière fois que Montréal a gagné la Coupe Stanley en 93, je ne sais pas si tu t'en souviens, oui. Ça avait vraiment mal tourné.
Oui.
Il y a d'autres occasions aussi quand les Canadiens gagnaient une série. C'était à l'époque où ils se rendaient en série.
Là, il n'y a plus de danger. Là. Les policiers sont contents.
À Toronto, écoute, c'est plus qu'un million de personnes qui se sont déplacées pour assister au défilé, puis au Square Nathan Phillips. Je ne sais pas si tu connais un peu Toronto.
Oui, je suis déjà allé à quelques reprises. Ouais.
Le défilé avec les autobus, là, les joueurs étaient sur le dessus, devait durer 2 heures. Ils ont quitté CNE. C'était une drôle de façon d'envisager un défilé comme ça. CNE, là, c'est quand tu t'en vas vers l'aéroport, là, c'est là qu'ils faisaient l'exposition autrefois. C'est là qu'était l'ancien stade des Blue Jays. Là. Alors, tu pars de là et arrivé au centre-ville, arrivé là vraiment où était la foule, ça a pris 4 heures. 4 heures. Il y a des gens... Évidemment, la foule était tellement dense puis il y avait beaucoup de familles qui étaient là. Il y a eu des enfants déshydratés, il y avait une température magnifique, mais quand tu es exposé au soleil sans arrêt pendant des heures comme ça, c'est pas drôle. Et surtout, tout proche du Nathan Phillips Square, vous savez, quand on voit l'image de Toronto, on voit très souvent l'image de cet hôtel de ville recourbé, cette magnifique architecture. Le Square Nathan Phillips, c'est juste en avant. Et c'était bon. Donc, c'est là qu'il y avait au moins 100 000, certains parlent de 200 000 personnes. Tout à coup, des coups de feu ont été entendus. 3 suspects ont été arrêtés. 4 personnes ont été blessées. Heureusement, on ne craint pas pour leur vie. Il y a eu des arrestations. Donc, alors, c'est ce qui est extrêmement triste, Louis, pour la ville de Toronto, c'est que ce défilé-là, si ça n'avait pas été de cet attentat, de ces coups de feu, aurait été vu mondialement comme une fête hors du commun, hors les manchettes. Je ne sais pas si tu as fait le tour. Moi, je me suis amusé à le faire.
Tout le monde
en Europe, aux États-Unis, partout. La nouvelle, c'est pas qu'il y avait 1 million à 2 millions de personnes pour acclamer les grands vainqueurs de la NBA. La nouvelle, c'était attentat, des gens blessés, patati, patata, des choses qu'on avait déjà vues dans la NBA, par exemple à Cleveland, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, lors d'une victoire des Cavaliers de Cleveland, il y avait eu comme ça des coups de feu. Bon, mais Toronto, la pure Toronto qui aime souvent, moi je connais très bien Toronto, j'y ai vécu en passant, j'aime beaucoup Toronto, mais c'est une ville qui a une atmosphère un peu particulière.
Mais oui, mais c'est de moins en moins la pure. Là. Quand tu regardes le nombre de fusillades qu'il y a dans une année, là.
C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a un morceau de Toronto là, qui est en train de changer. Il y a des coins de Toronto qui deviennent extrêmement dangereux. Cette ville-là, qui a toujours voulu se présenter au monde comme étant une ville nord-américaine typique, mais avec un comportement sécuritaire beaucoup plus acceptable, avec moins de ghettos, avec moins... Enfin, tous les cancers qui rongent la vie urbaine nord-américaine, Toronto aimait se présenter au monde comme étant l'exemple parfait qu'on peut réussir une ville nord-américaine sans que ce soit comme ça. Je me souviens d'un article qui avait été écrit dans Time Magazine, ça fait longtemps, Louis, longtemps, 88, lors du sommet G7 qui avait eu lieu à Toronto. Bon, les journalistes arrivent un peu avant, tout ça. Bon. Puis il avait fait un grand article dans le Time Magazine où il disait « Toronto, c'est comme la ville de New York gérée par des Suisses. » Et les Torontois avaient adoré ça. Ils avaient dit « C'est en plein ça, nous, tu comprends? » Et Toronto est une ville qui, étrangement, tu vois, c'est le double de la population de Montréal. C'est évidemment d'une richesse inouïe. C'est, c'est une des métropoles les plus riches per capita en Amérique du Nord. Mais c'est une ville qui, étrangement, a toujours été complexée. Complexée face à Montréal, crois-le ou non, entre autres à cause de nos Coupes Stanley, mais aussi à cause d'une espèce d'atmosphère qui règne à Montréal, qui commence à régner dans certains coins de Toronto, le côté plus bohème, le côté plus créatif, plus artistique. Toronto s'est doté, dans les 10-12 dernières années, des équipements culturels probablement les plus modernes d'Amérique du Nord, qu'on pense à la salle d'opéra, qu'on ouais. pense au Kerner Hall, qu'on pense à, enfin, tout ce qui a été construit, la rénovation du Royal Ontario Museum, qui est un vrai chef-d'œuvre, la rénovation du Art Gallery of Ontario, qui est l'œuvre du grand architecte d'origine canadienne Frank Gehry. Alors, Toronto aime ça, projeter cette image-là, et John Tory, le maire, qui est soit dit en passant, je le dis de même, je veux pas faire du name-dropping, mais c'est un ami personnel, John Tory a annoncé qu'il était vraiment en colère de voir les dommages créés à l'image de la ville, ouais. puis aussi encore des coups de feu. John Tory, il faut le savoir, est un des plus grands militants en faveur de l'idée de bannir les armes de poing, les revolvers. Et on vient d'apprendre que le gouvernement Trudeau n'agira pas avant la prochaine élection dans ce cas-là. Alors,
d'ailleurs, comment t'as trouvé l'intervention de Justin Trudeau hier?
À Toronto?
Ouais.
Bizarre.
Oui. Moi, ça m'a laissé un malaise. D'abord, il criait, littéralement.
Ouais, c'est ça.
On aurait dit que c'était un gars qui était en perte de contrôle.
Oui, il avait l'air de ça. Il avait l'air à quelque part à mi-chemin entre un cheerleader ouais. et un gars en perte de contrôle. Il hurlait! Il hurlait!
Il criait littéralement, là.
Et sais-tu ce que j'ai senti, moi, pour avoir vécu ça avec un autre premier ministre? Tu sais, souvent, là, dans des rassemblements comme ça, là, c'est à un moment donné, là, tu dis, lui, il va en manger une, tu comprends? Ouais. Et je pense que Trudeau, mon expérience, c'est qu'il avait peur d'être hué. Il avait peur que cette foule-là l'accueille, je dirais pas des huées gigantesques, mais qu'on sente à travers la foule un malaise, tout ça. Alors il s'est dit, je vais faire le cheerleader. C'était très, très bizarre, c'était très ouais. spécial, mais voilà, c'est notre Justin à nous.
Voilà. La grande question, est-ce que les Raptors vont être reçus à la Maison-Blanche?
Et pas, en principe, non, hein. Parce que la Maison-Blanche, ce sont des équipes américaines qui...
Ouais, non, je sais, mais quand même, il y a une équipe au nord de la frontière. Je sais pas.
Moi, je pense pas. Honnêtement, là, c'est pas une affaire de « il est fin » puis « il est pas fin » Trump.
Mais il y a beaucoup d'Américains dans l'équipe quand même. Là.
Oui, mais c'est pas une équipe américaine. Je veux
non,
dire, quand,
tout à fait.
Quand ouais. les Canadiens de Montréal ont gagné la Coupe Stanley, ça commence à faire un bout de temps. ils n'ont pas été reçus à la Maison-Blanche. C'est clair que non. Non,
ouais.
c'est pas...
Sauf que la situation d'Edmonton. Est différente. Non, parce que le hockey, c'est majoritairement dans les équipes. En tout cas, c'est que si tu regardes le pourcentage de joueurs, c'est généralement davantage des Canadiens, là.
Un peu plus, mais c'est
de moins en moins
vrai,
là, mais
c'est des
y a
Européens,
beaucoup d'Européens.
Là, c'est beaucoup, beaucoup d'Européens. Un pourcentage de Canadiens moins grand qu'avant, plus d'Américains. Alors non, mais je pense pas qu'ils vont être reçus à la Maison-Blanche. Je ouais. ne pense pas que ça fait partie de la tradition américaine du tout. C'est une équipe... hors les États-Unis, et je pense pas qu'ils vont être reçus.
Es-tu un amateur de basketball, toi? C'est un sport qui...
Écoute, je n'étais pas vraiment un amateur de basketball. À un moment donné, ma fille cadette avait un chum là, qui était un joueur de basketball, qui avait d'ailleurs allé jouer au basketball professionnel en Asie. J'ai donc appris un peu à regarder ça, j'allais le voir. Et quand est arrivée cette série des Raptors, littéralement, Louis, j'ai été soufflé. Quel spectacle ouais. incroyable. Faut dire que ce à quoi on assistait, c'était pas du basketball ordinaire. C'était le summum du summum de la perfection. Chaque partie se gagnait à 2, 3, 4 points, 1 point, jusqu'à la dernière seconde. C'était vraiment... J'ai trouvé ça, là, comment dire, je levais de sur mon sofa dans le salon tellement... Comme j'avais dit à des amis, ça me prendrait un numéro d'urgence pour appeler le cardiologue si ça tourne mal.
Il y avait cette image du ballon aussi, à un moment donné, je pense que c'est dans la demi-finale, là, avant de la finale, où on voit un joueur des Raptors, je connais pas les noms, je suis pas ça, là, mais qui lance le ballon, puis le ballon frappe l'anneau, et là, il reste genre une seconde au tableau indicateur, puis le ballon passe.
C'est Kawhi Leonard, oui.
Exactement.
C'est comme un pur miracle. Et Kawhi Leonard, faut que tu saches que il est présentement considéré comme le meilleur joueur de basketball au monde.
Ouais.
Et il devient agent libre sans compensation, là, le 1er juillet. Et la grande, grande, grande question à Toronto, c'est est-ce qu'il va rester à Toronto? Il aurait été là seulement pendant un an.
Et ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des gens qui essaient de lui faire un paquet de cadeaux, lui dorer la pilule pour, en lui donnant des penthouses installés.
Ouais, il lui a offert un penthouse de 10 millions de dollars. Il y a des restaurants qui ont dit « tu peux venir manger à volonté ici ». Il y en a qui ont donné qui ont offert des billets d'avion en classe affaires pour n'importe où sur la planète Terre avec sa famille. n'importe quoi pour l'amener. On ne sait pas s'il va rester. Ouais. C'est une grosse question de sous. Hein. C'est un gars qui va coûter Kawhi Leonard autour de 40 millions par année. Mais oublions les dollars puis la business. Cet athlète-là était hors de ce monde. Vraiment, voilà. Là, ce gars-là était incroyable pendant ces...
Et il aura permis à Toronto de gagner quand même.
Ah, c'est clair que c'est lui qui est le grand vainqueur. D'ailleurs, il a été choisi le joueur le plus utile.
On s'arrête un tout petit moment. Après ça, on va parler de... On va faire un retour dans l'histoire.
Voilà. Ouais,
c'est ça, un peu d'histoire. On revient dans un instant.
Drainville PM. La voie est libre.
Alors, tu veux, Luc, faire un retour en arrière, parler de l'appel du 18 juin, ce fameux discours qu'aurait tenu le général de Gaulle à la radio, en fait, en 1940, pour un peu planter Pétain, le maréchal Pétain. Alors là, il y a quand même une célébration qui est faite, mais il y a beaucoup de controverses entourant ce fameux discours. Hein.
Ah, ben on pourra en parler si tu veux, mais que s'est-il passé le 18 juin 1940? D'abord, l'armée française a été totalement battue par l'armée allemande avec une vitesse absolument d'éclair. L'armée britannique, qui a vu qu'ils étaient pris en souricière, ont décidé d'essayer d'évacuer leurs soldats. Puis c'est la fameuse scène de Dunkerque qui a été reprise dans un film il y a 2 ans, où ils ont évacué jusqu'à 350 000 personnes en monopolisant, en nolisant, en forçant tous les propriétaires de bateaux, aussi petits soient-ils, ou peu importe leur utilité, de traverser pour aller chercher les soldats de la force expéditionnaire britannique. Donc la France se retrouvait seule, battue. Et le gouvernement était en déroute. Il s'était sauvé à Bordeaux vers le 11 ou le 12 juin. Et c'est à ce moment-là que Weygand, qui avait pris la place du général Gamelin, qui est devenu le commandant en chef de l'armée, a donné une promotion à un certain colonel Charles de Gaulle.
Ouais.
Et il en a fait un brigadier général, donc le premier rang de général, mais seulement sur une base intérimaire, ce qui n'a d'ailleurs jamais été corrigé. C'est intéressant sur le plan historique. Il est toujours resté général parce qu'il n'a jamais été déchu, mais il n'a jamais été confirmé général. Alors, général de Gaulle a été nommé sous-secrétaire à la guerre. Dans le dernier des gouvernements qui a été assemblé. Et il y avait une tâche incroyable, ce nouveau cabinet-là, c'était est-ce qu'on continue la guerre? Parce qu'il y avait quand même toute la flotte maritime française qui était dans le sud.
Ouais.
Il y avait encore des forces françaises qui existaient. Doit-on ou ne doit-on pas continuer le combat? De Gaulle était de ceux qui croyaient qu'il fallait continuer le combat. Il a servi d'émissaire auprès des Britanniques pour leur dire « qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ?» Les Britanniques ont dit « vous devez continuer à vous battre, on va revenir », et ainsi de suite. Et à un moment donné, tout s'est effondré. Le maréchal Pétain, qui était le vainqueur de la mythique bataille de Verdun, une des plus grandes boucheries de l'histoire de l'humanité, et qui était vénéré comme tel en France... Donc, Pétain devient le chef de l'État français, appelle à la capitulation, et De Gaulle prend un avion, traverse à Londres, et par le biais de la BBC, il est allé faire ce qu'on appelle l'appel du 18 juin. Et c'est pourquoi, à ce jour, on parle souvent du général De Gaulle comme l'homme du 18 juin. Qu'a-t-il fait le 18 juin? Il était midi, il s'est adressé aux Français, mais quand tu regardes ou t'écoutes le texte, tu vas te rendre compte qu'il s'adressait essentiellement aux soldats français. Mmh. Il disait aux soldats français, refusez la défaite, continuez de vous battre, venez me retrouver ici à Londres, vous qui êtes des soldats, des officiers, des simples soldats, vous qui êtes des ingénieurs en armement, venez me rejoindre à Londres, nous allons continuer le combat à partir d'ici et partout où vous vous trouvez présentement. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il n'y a presque personne qui a entendu l'appel du 18 juin.
Exactement.
D'abord parce que les gens étaient dans le chaos total. Ils n'étaient pas assis tranquillement en train d'écouter la radio. Deuxièmement, ceux qui l'écoutaient n'écoutaient pas nécessairement la BBC. Mais il ne faut pas non plus minimiser l'impact énorme que cet appel du 18 juin a eu. Pourquoi? Parce que dans les jours qui ont suivi, la presse régionale un peu partout en France, celle dont l'occupant allemand n'avait pas encore eu le temps de fermer, là, eux autres, ils ont tous publié le texte. Et soudainement, les gens se sont mis à écouter BBC Londres. Parce qu'il y avait des émissions quotidiennes qui s'intitulaient « Les Français parlent aux Français ». Et on utilisait ça pour donner des messages à la résistance. Parce qu'à partir du 18 juin est née cette idée de « nous devons résister ». C'était la première fois que le mot t'a employé. C'est De Gaulle qui l'a employé. On vous demande de résister pour tout le reste. Mais la mythologie qui s'en est développée est quand même extraordinaire. D'abord, un général par intérim, qui a même pas été ministre, mais comme sous-ministre, pendant combien de temps? Une semaine, est inconnu de la France, vraiment, des Français, sauf dans le monde militaire, traverse à Londres et, sans aucun moyen particulier, réussit à s'imposer comme le chef légitime de l'État français, au point où, et la France avait, n'ayons pas peur de le dire, la France avait été battue à plate couture.
Ah ben oui.
Et les 4 ans d'occupation avant la libération, ça a été des années honteuses dans l'histoire de la France. Et toute la mythologie bâtie par De Gaulle a permis à la France d'assimiler sa honte, de l'assumer et de passer à autre chose. C'est ça que De Gaulle a réussi à faire. Et que lui, à la tête d'une France battue, d'une France complètement à terre, à genoux, d'une France qui avait collaboré sur une immense échelle avec l'Allemagne, ben, il a réussi à s'asseoir à la table des vainqueurs. Il a réussi, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies a été créé, il a réussi à faire en sorte qu'il y avait une place pour les vainqueurs. Il y avait l'Angleterre, il y avait l'URSS, il y avait les États-Unis, puis il y avait la France. Ouais. C'est quand même... Donc, ce De Gaulle a joué un rôle historique tellement incroyable. Je veux dire, qu'est-ce qui serait advenu de la France? Quand on lit les livres d'histoire, on voit que les Américains qui ont fini par intervenir dans la guerre à partir de 1942... Les Américains n'avaient aucune confiance dans ce gars-là. Avaient l'impression qu'il était un peu fasciste tué bord. Avaient l'impression que c'était une grande gueule. Et ils voulaient rien savoir de lui. Deuxièmement, les Américains avaient compris, dans leur compréhension de ce qui se passait en Europe, que la France était finie, était foutue. Et ils étaient prêts à la... Dans leur plan, ils étaient prêts à la découper au bistouri. Laisser des morceaux du Nord s'en aller vers la Belgique, laisser des morceaux de l'Ouest s'en aller à l'Allemagne, à la Suisse. Ils voulaient dépecer la France.
Ouais.
Et là, De Gaulle a réussi, de sa seule personne, de sa seule volonté, à tenir tout ça ensemble puis à faire renaître une France qui est encore là aujourd'hui, mais qui se porte pas très bien présentement. Ouais.
Mais tout à l'heure, quand je parlais de controverse, c'est autour, entre autres, du discours. Semble-t-il que c'était pas à 18 heures comme on l'a toujours prétendu, mais bien à 22 heures, parce qu'il y avait une négociation sur le contenu du discours.
T'as raison, c'est à 22 heures. C'est moi qui j'ai dit midi tantôt.
Ouais.
C'est à 22 heures. Ils l'ont rediffusé le lendemain midi.
Exact. Mais en fait, il semble-t-il que selon ce que j'ai lu, parce qu'il y a un livre qui a été publié l'année passée là-dessus que j'ai à la maison, dont j'oublie le texte, le titre, mais le fameux texte qu'on avait publié dans les quotidiens et dont on se rappelle maintenant, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a presque personne qui l'a entendu, l'appel en direct là, à la radio, mais ça avait été repris dans les journaux à partir d'une traduction qui avait été faite par la Suisse, qui avait entendu le message. Ça a été repris, semble-t-il, par la suite et modifié. Le contenu original diffusé n'était pas le même que celui qui a été publié. Et dans le contenu publié, De Gaulle était beaucoup plus vindicatif à l'égard de Pétain qu'il ne l'était dans le message original.
Ah, ça, c'est intéressant, parce que tu vois, les gens, ceux qui s'intéressent à l'histoire, faut savoir que De Gaulle était très, très proche de Pétain, n'est-ce pas?
Ouais.
Il y avait en France, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on appelait à l'époque des officiers de plume. Ce sont des gens qui étaient doués, des officiers de l'armée, doués pour l'écriture, et qui devenaient des adjoints à des grands généraux, qui devaient écrire des rapports, qui devaient écrire des discours. Et De Gaulle était l'officier de plume de Pétain. De Gaulle était la plume derrière Pétain quand il parlait avant la guerre. Alors, ils étaient non seulement proches, mais j'oserais même dire très proches.
Ouais.
Et soudainement, ben, il y a eu cette rupture qu'on connaît, Pétain qui s'est mis du côté de la collaboration, Pétain puis son gouvernement dirigé par Pierre Laval, qui ont trouvé moyen de faire participer la France à l'Holocauste. Ce sont des policiers français qui ont mis en place et qui ont mis en œuvre l'infâme rafle du Veldiv, c'est-à-dire le Veldiv étant le vélodrome d'hiver, c'est qu'on a rassemblé les enfants, les hommes, les enfants, les femmes, les bébés, tout ce que tu veux, juifs. Ce sont des policiers français qu'ils ont arrêtés, qu'ils ont amenés dans ce vélodrome, à partir duquel on les a mis dans des wagons à bestiaux, puis ils se sont en allés directement à Auschwitz. Il n'y a presque eu aucun survivant de cela. Alors Pétain avait choisi ce camp-là, De Gaulle a choisi le camp inverse. Il y a eu un célèbre et très, très grand procès qui a suivi la guerre contre Pétain, ce vieillard qui était maintenant âgé de 89 ans, et il a été condamné à mort, et De Gaulle l'a gracié. Gracié à 91 ans, ça lui a pas donné beaucoup de temps à vivre, mais comme De Gaulle l'a gracié, ça faisait partie du personnage.
Alors, je viens de retrouver le titre du livre. Alors, étonnamment, il s'appelle « L'appel du 18 juin 1940 ». Sans grande imagination.
Hé, hey, tu t'en souvenais pas, en plus, Louis? As-tu un problème? Je pense qu'il y a des vitamines pour le cerveau.
Oui, ça, oui. Quand allez, j'étais allé voir,
quel est le titre du livre qui porte sur l'appel du 18 juin? Mesdames et messieurs, « L'appel du 18 juin ».
Voilà, exactement.
Louis vient d'y penser.
Non, mais je l'ai retrouvé, c'est publié.
Ceux qui s'intéressent au personnage de Gaulle, là, une des meilleures biographies que j'ai lues, mais il faut vraiment y tenir parce que c'est en trois tomes, c'est la biographie de Gaulle par Jean Lacouture. Ouais. Fabuleux. Ce personnage de Gaulle est un personnage absolument fascinant. Ce qu'il a réussi à faire de sa seule force de caractère est totalement hors de l'ordinaire.
Monsieur Lavoie, merci beaucoup. On se reparle demain.
Salut, Louis.
Salut, Luc. Au revoir.